Chapitre 10. André à Julie. juillet 1825. Je t'ai promis de t'écrire souvent. J'ai passé 15 longs jours à me procurer une plume, de l'encre et du papier. Je suis au secret dans la prison de Caen. Quand je me tiens à bout de bras, à l'appui de ma croisée, je puis voir le haut des arbres du grand cours et les peupliers qui bordent au loin les prairies de Louvigny. Tu aimais ces peupliers, ils me parlent de toi. Va, je ne suis pas si malheureux qu'ils le supposent. Je vis avec toi. Ta pensée ne me quitte jamais un seul instant. Je sais que tu te gardes à moi et j'ai confiance. Ce qui me fait souffrir, c'est que je ne connais pas Paris. Je ne vois rien de ce qui t'entoure. Je ne puis bien me figurer ce que tu fais, où tu vas, la rue que regarde ta fenêtre. Je suis obligé de me retourner vers le passé. Je te cherche où je t'avais, dans notre maison des acacias, comme je t'aimais, Julie. Et cependant, ce n'est rien auprès de la façon dont je t'aime. Non, c'est le seul miracle digne de ce nom. L'affection peut donc grandir encore quand elle emplit déjà tout le cœur. Le cœur grandit pour la pouvoir contenir. Je sens les progrès de ce divin mal qui est ma vie. Je t'aime comme jamais on aima, et je sens que je t'aimerai encore mieux demain. Ils ne peuvent rien contre cela. Je ne suis pas si malheureux qu'ils le pensent. L'homme qui est chargé de me garder m'a donné une plume, de l'encre et du papier, pour de l'argent. Il n'est pas riche, il a 2 enfants, il aime sa femme. Pendant les grands froids de l'année dernière, tu avais envoyé des petites chemises de laine aux enfants. Il s'est souvenu de cela, et ça ne m'a pris que 2 louis pour me procurer une main de papier, une bouteille d'encre et 3 plumes. Ma pauvre belle Julie, quand j'ai vu tout cela, j'ai pleuré comme un fou. Il m'a semblé que tu étais là et que j'allais te parler. Figure-toi, la souffrance ne me fait pas pleurer, mais à la moindre joie, j'ai des larmes. Et je ne savais par où commencer ni comment te dire cette chose cruelle. Tu ne liras point cette lettre, Julie, du moins il s'écoulera longtemps avant que tu ne la lises. J'ai réfléchi depuis que j'ai de quoi t'écrire, et il y a une chose terrible, si c'était un piège. Je pense que Louis, mon gardien, est un brave homme, mais il me croit coupable comme les autres, et tout est permis contre les coupables. Ce doit être un piège. Si je t'adressais une lettre maintenant, ce serait dévoiler ta retraite à toi. Il te saisirait, il te mettrait en prison. Toi, en prison, toi, ma Julie, toi, l'honneur, la dignité, la pureté. Je puis tout supporter. Ce que j'endure est loin de dépasser mes forces, et j'éprouve même une bonne et profonde joie à penser que ta part du fardeau est sur moi. Mais si je te savais dans la peine, adieu mon courage, qui est encore toi. Je ne connaîtrai plus la Providence. Si la Providence te frappait, je blasphémerai. C'est un piège, vois-tu. Quelque chose me le dit. Je n'y tomberai pas. Je sais où cacher cette lettre qui s'allongera sans cesse et où, quelque jour, tu trouveras tout mon cœur. Comme ils se demanderont ce que je fais de mon papier, j'écrirai d'autres lettres que j'enverrai à Londres où ils te croient. Tout à l'heure, je vais t'expliquer ceci. Ces lettres-là, qu'ils les lisent s'ils veulent, qu'ils y cherchent ta trace, j'ai mon secret dans mon cœur. Ils sont mes ennemis, et c'est une chose bien singulière. Ils n'ont pas de mauvais vouloir contre moi. Je n'ai pas beaucoup étudié, il me serait impossible d'expliquer certaines pensées que j'ai et qui sont claires au-dedans de moi. Ma personne leur inspire une sorte d'amitié, c'est mon crime qu'ils détestent. Mais peut-on séparer l'homme de son acte? Et si j'ai commis le crime qui m'est imputé, ne suis-je pas de tout point haïssable? Je sais qu'il est bien difficile de dire ce qu'on ferait soi-même dans tel cas donné à la place d'autrui. À 2 points de vue divers, le même objet peut changer de telle sorte qu'on ne le reconnaît plus. Tu te souviens du grand frêne qui était à Chiave, de l'autre côté de Sartène. La foudre l'avait mutilé. En venant de Chiave, c'était un débris de bois mort. En arrivant de Sartène, ses branches vertes et vives le drapaient dans un glorieux manteau de feuillage. Tout est ainsi. La face ne ressemble pas au profil et notre voisine, Madame Schwartz, ne passerait pas pour louche si elle voulait ne montrer à la fois qu'un de ses yeux. Tu vois, je plaisante. C'est pour te dire que le juge d'instruction est doux et bienveillant à mon égard. Tu seras bien aise d'apprendre son nom, car il n'y a pas au palais un conseiller plus probe et plus digne. Je suis entre les mains de Monsieur Roland, le frère du président, un homme doux que les pauvres connaissent. Mais voilà mon malheur, et je crois, malgré mon ignorance, que c'est la maladie même de notre loi française. Un crime commis suppose nécessairement un coupable. Chacun tient à l'honneur de remplir la mission qui lui est confiée. Il faut si bien un coupable qu'il ne faut qu'un coupable. La loi ne veut pas que le même fait motive deux condamnations, et sa logique, rigoureuse jusqu'à l'enfantillage, laissera le vrai criminel en repos si quelque bouc émissaire a déjà payé la dette fictive que tout crime contracte envers la répression. Je n'ai pas seulement du papier, une plume et de l'encre, j'ai un livre que Louis m'a vendu. Ce sont les 5 codes. Notre curé disait qu'il n'est pas bon pour tous de lire la Bible et que la parole de Dieu, dénuée d'explication, est un breuvage trop capiteux pour certaines intelligences. Je pencherais à croire qu'il en est ainsi du code, raison plus humble, mais bien haute encore sans doute pour ma simplicité, puisqu'elle m'étonne souvent et que parfois elle m'épouvante. Je ne parle pas de tout le code. Ce que j'y cherchais, c'était moi. Je n'ai donc étudié que la partie pénale et l'instruction criminelle. Ceux qui ont établi cela étaient les premiers parmi les hommes. Ils ont mis dans la loi tout leur génie et l'expérience de 60 siècles. Leur œuvre m'inspire le respect, mais combien je remercie Dieu de t'avoir maintenu loin d'ici. L'artillerie de la loi qui te protégeait hier est braquée aujourd'hui contre toi. Il faut un coupable, nous sommes les coupables qu'il faut, non pas parce que la loi malveillante et injuste nous choisit, mais parce qu'une certaine somme de probabilité suffisante nous dénonce à la loi. Du camp des protégés, nous passons dans le camp des ennemis. Et tu serais comme moi, seul, ne pouvant communiquer même avec moi, c'est la loi. Dans cette lutte de la vérité contre les apparences, tu te présenterais sans armes, affaibli par la torture morale. Nul bruit du dehors ne pénétrerait dans la tombe où tu mourrais vivante. Je me trompe, un écho sinistre viendrait, je ne sais d'où ni par où, et cette voix en deuil dirait à ton sommeil, comme à tes veilles, tu seras condamné. Point de défenseur, nul conseil, le blocus de l'esprit, la famine appliquée à l'âme. Ton absence est ma consolation et ma force. Tu es libre, tu resteras libre. Tant qu'ils n'ont que moi, la moins chère moitié de mon être, je suis comme un prisonnier dont l'âme privilégiée aurait le don de s'élancer au dehors dans les joies de la liberté. Il faut un coupable, n'est-ce pas l'évidence ? Non, je ne suis pas révolté contre la loi, non, sa raison d'être me saute aux yeux, on la fit contre les tigres, ses armes conviennent à cette terrible chasse. Or, dans les bois, quand le jour est sombre et le fourré épais, n'arrive-t-il pas qu'une balle s'égare et jette bas un passant au lieu du sanglier qui poursuit paisiblement sa route ? On était là pour le sanglier, tout ce qui remuait sous bois devait être sanglier, il fallait un sanglier, il faut un coupable. Que venait faire le passant dans cette forêt ? J'ai connu des chasseurs qui donnaient tort au passant et lui faisaient encore la leçon pendant qu'on l'emportait au cimetière. Moi, je ne sais comment nous sommes entrés dans la forêt. Te souviens-tu de ces deux paysans d'Argence, l'homme et la femme ? Et dès ce temps-là, je me disais, cela peut tomber sur nous. C'est comme la foudre. Et dès ce temps-là, dans ma pensée, je t'abritais contre la foudre. Ma raison me criait « Tu es fou !» Peut-être étais-je fou, car ce qui est arrivé chez nous touche à l'impossible, mais, encore une fois, j'étais prêt. J'avais prévu l'impossible et tu es sauvé. Elle était belle, cette pauvre jeune paysanne. Quand je t'ai vu déguisée en paysanne le soir de ton départ, il m'a paru que tu lui ressemblais. Le mari avait l'air doux et triste. Tout était contre eux, excepté mon cœur qui me criait « Ils ne sont pas coupables !» Le mari est au bagne, la femme en prison, tous deux séparés l'un de l'autre pour toujours. Julie, je n'irai pas au bagne. Il y a des moments où je me sens la force de terrasser 10 hommes. Est-ce la fièvre ? Je ne crois pas que ce soit la fièvre. Mon juge est venu avec son greffier. C'est la sixième fois. Je me défie de Louis, car M. Roland a vu de l'encre à mon doigt, et il a souri. C'est encore un jeune homme. L'étude a fatigué ses yeux et pâli sa joue. Il est marié depuis 5 ans, depuis 4, il est père. Une fois, comme il entrait, mon gardien lui a demandé des nouvelles de sa femme, et à la façon dont il a répondu, j'ai vu qu'il l'aimait. C'est lui qui portait la parole dans l'affaire des époux Orange. Il n'était alors que 3e avocat général. On disait qu'il irait loin, et ce procès lui fit honneur. Cependant, il y a au pays d'Argence une bête féroce qui se vante d'avoir tué le vieil homme. Il est doux, je le crois bon. Il apporte un soin extrême à savoir, mais à savoir que je suis coupable. Sa conviction est faite, il cherche seulement à l'étayer par un surcroît de preuves. Il a la religion de sa mission, et je ferai serment qu'il n'a rien en sa conscience, sinon un pur dévouement à son devoir. Il faut un coupable, je suis le coupable, nous ne sortons pas de là dans mes interrogatoires. Mais des négations ne sont qu'une forme, il les accepte comme la lettre du rôle que je dois jouer nécessairement, comme nécessairement il joue le sien. Je puis bien te dire cela, Julie, puisque de longtemps tu ne liras cette lettre. Quand tu la liras, tout sera fini. Je puis bien te dire que ton absence est à ma charge. Dès mon premier interrogatoire, j'affirmais que tu avais trouvé passage à bord d'un caboteur au petit port de Langrune et que tu étais en route pour Jersey. Dans leur pensée, tu emportes les 400 000 francs. Et comment leur pensée serait-elle autre? Je suis coupable. Pourtant, M. Roland a une femme qu'il aime, mais il est homme d'honneur, et pour se rendre raison de la conduite d'un criminel, un honnête homme doit-il replier sa pensée sur sa propre conscience? Évidemment non. Je suis coupable, toute ma conduite est d'un coupable. Une fois ceci admis, les choses changent de nom. La femelle d'un cheval est une jument, la femme d'un malheureux tel que moi est un complice. Entre mon juge et moi, la question n'a pas marché depuis le premier jour. Mes réponses ne lui ont rien appris. J'étais coupable, je suis coupable. L'unique moyen d'améliorer ma position était un aveu sincère. Il n'y a pas de doute en lui. Son travail est de rendre clair pour autrui ce qui, pour lui-même, est manifeste. Quand je le quitte, je puis l'affirmer du fond du cœur, je n'ai ni rancune ni colère. Cet homme, plus intelligent que moi, savant autant que je suis ignorant, probe jusqu'à l'austérité, n'ayant d'autre passion qu'une ambition légitime, n'a pas la volonté de me nuire. L'idée d'un tort qu'il pourrait me causer, en dehors de l'accomplissement de son devoir, lui ferait horreur, j'en suis sûr. Il est rouage, il tourne dans le sens normal de son mouvement. À 1 heure, mon avocat viendra, rouage aussi, qui tournera en sens contraire. Monsieur Roland m'a demandé aujourd'hui si j'avais à me plaindre de Louis, de ma nourriture. Il veut que je sois bien. Je suis bien, puisqu'aucune des cellules de la prison n'est pour toi, ma Julie. Je suis bien, puisque tu m'as donné cette preuve de tendresse de garder ta chère liberté. Je suis bien, je ne me plains pas. Et qui sait si, dans cette salle du palais de justice, où ils seront assis au-dessous du crucifix, la lumière ne se fera pas? Je raconte. En te quittant, je n'aurais pas dit tout ce que ressentait mon pauvre cœur. Mais d'abord ce voyageur de l'impérial, qui a le même nom que notre commissaire de police. Un moment, je fus terrifié. Puis je me souvins de ce jeune homme pâle et maigre qui était venu la veille dans notre magasin demander M. Schwartz. De temps en temps, il en arrive comme cela d'Alsace et ils s'en vont chercher fortune ailleurs. Celui-là s'en allait, comme les autres. Quel bon cheval que ce Black! En 1 demi-heure, il me conduisit à la maison de la bonne Madeleine, notre nourrice. Je lui dis tout uniment que le petit était malade par le mauvais air de Caen et qu'il fallait venir le chercher. Elle prit ta place dans le tilbury sans demander d'autre explication. Avec celle-là, tu n'as rien à craindre. Elle est la mère du fio presque autant que toi. Black reprit le galop et la bonne femme se mit à bavarder. Je n'avais pas le cœur à lui donner des explications qu'elle voulait. Je lui dis seulement que l'enfant pourrait bien rester du temps chez elle. Toujours s'il veut, répondit-elle. Nous arrivâmes à Caen la nuit tombée. Dans les rues basses, personne ne remarqua le tilbury, mais il fut reconnu vers la préfecture et les gens commencèrent à le suivre. J'allais bon train, la foule aussi, Quand je débouchais aux acacias, la cohue criait derrière moi. « Qui veulent les fainéants ?» demandait Madeleine. « C'est-il aujourd'hui carnaval ?»« Ma femme est en Angleterre, » répondis-je. « Moi, je vais être arrêté. L'enfant n'a plus que vous. » Elle resta bouche béante et me saisit le bras. Puis elle dit « On a donc fait un méchant coup, l'homme ?» Je répliquai « Nous sommes innocents, ma bonne Madeleine. » Black s'arrêtait devant la porte cochère qui était fermée. J'avais parlé ainsi machinalement dans la préoccupation où j'étais que l'accusation allait éclater. Madeleine est de Normandie. Elle s'écria « Ah, les malheureux, ils disent tous cela !» Ainsi, Madeleine elle-même, notre bonne Madeleine. Les bras me tombèrent. Madeleine ne savait rien de cette série de hasards qui nous déguisent en coupables, et Madeleine était prête à admettre l'accusation, n'importe laquelle. Il est vrai qu'elle ajouta « Le petit Fiot n'est pas en cause ». La foule arrivait. Comme je descendais, le loueur et son palefrenier s'élancèrent vers moi. Monsieur Granger s'écria « Ah, scélérat, tu as voulu nous faire tort du cheval et de la voiture !» Le moyen de voler un cheval et une voiture n'est pas de les ramener, l'un traînant l'autre à la porte de leur maître. Madeleine sentit cela et prit le loueur au collet en l'appelant imbécile et innocent de raison. Comme le palefrenier vint au secours de son maître, elle tira de ses poumons le grand cri des bagarres normandes. « À la force, à la force !» Et subsidiairement, comme elle le disait tout au long, car ils apportent en naissant le don de procédure, elle menaça nos voisins d'une plainte pour injure, voie de fait, mauvais traitement. Elle fixa le taux des dommages-intérêts exigés, lançant comme au temps de Montjoie-Saint-Denis les noms de son avocat, de son avoué et de son huissier. La force appelée était là, elle n'avait pas loin à courir. C'était d'abord la cohue qui nous suivait, toujours grossissant depuis les environs de la préfecture. C'était ensuite les gens de notre maison et les voisins qui s'élançaient hors de chez eux en tumulte. C'était enfin la gendarmerie, doublée de la police, qui sortait de la promenade, car depuis le matin, le logis n'avait pas cessé d'être cerné. Je ne connais pas ma vigueur. As-tu oublié cette soirée où les gens du comte Bozzo Corona, ton cousin de Bastia, voulurent me jeter hors du chemin que suivait son carrosse? Je n'avais pas 18 ans. Il y eut 3 valets couchés dans la poussière et la voiture fut renversée au bord du talus. Je n'aurais pas su dire, moi-même, comment cela s'était fait. L'insulte avait envoyé du sang chaud à mon visage et j'avais frappé d'instinct, sans le vouloir, comme on marche et comme on respire. Il y eut quelque chose de pareil ici. Seulement, j'ai pris de la puissance depuis ma 18e année. La foule, les voisins et les gendarmes se ruèrent sur moi tous à la fois. J'étais là pour me livrer prisonnier, mais je n'avais pas deviné une semblable attaque. Elle me surprit et je la repoussai malgré moi. Il y eut des blessés. J'avais frappé. Un large cercle se fit autour du tilbury. Madeleine me criait « Eh, pas les gendarmes, ne touchez pas aux gendarmes, monsieur Ménotte, c'est sacré, ça !» Et puis elle ajoutait, fière et heureuse, « Ah, c'est un gars, celui-là, il ne faut pas le tutoyer, sarpejeux !» J'entrai sous la voûte qu'on venait d'ouvrir, et d'un temps, je montai l'escalier du commissaire. Je poussai la porte. Monsieur Schwartz était absent, mais Eliasien, dont la toilette me parut être un peu en désordre, tenait un fleuret boutonné à la main. La servante avait une broche et Madame Schwartz portait une énorme paire de pistolets. « Je viens parler à monsieur le commissaire de police, » dis-je. « Feu !» s'écria Madame Schwartz, folle de terreur. « Il va m'assassiner ! Je vous ordonne de faire feu !» Fort heureusement, son bataillon n'avait que des armes blanches, et elle ne songeait point elle-même à décharger ses 2 pistolets. Sans cela, mon heure aurait sonné. Je croisai mes bras sur ma poitrine après avoir détourné la broche dont la servante me portait vaillamment un coup en plein visage. J'ouvrais la bouche pour déclarer que je renonçais à toute résistance quand notre ami le palefrenier, me prenant par surprise, noua ses 2 bras autour des miens par derrière. 10 personnes se jetèrent sur moi aussitôt et je fus terrassé, presque étouffé. J'entendais qu'on disait « Ah, le coquin! Ah, l'enragé! Il aurait fait la fin de quelqu'un! Des pistolets plein ses poches! Et pas d'argent! Où sont les 400 000 francs? Cet autre filou de Bancel prendra cette occasion pour faire faillite! Et tout le moyen commerce de Caen est ruiné d'un coup! Ah, l'enragé! Ah, le coquin! Ah, le bandit! Lié, garrotté, enchaîné! Il faut le garder vivant pour le voir à la guillotine !» La voix aiguë de Madame Schwartz perçait comme une vrille ce vacarme confus. C'est elle qui criait « Liée, garrottée, enchaînée !» Je ne saurais nombrer combien de cordes on me mit autour du corps. Quand tout fut fini, elle arriva avec la chaîne du puits et me la fit serrer autour des jambes en grommelant « Ça fait des yeux doux en coulisses à tout le monde, ça se coiffait en cheveux et ça attirait tous ces galouriaux de la ville. » C'était toi, ma pauvre femme, qu'elle garrottait et qu'elle accablait. Tu étais trop belle. Elle me punissait de ta beauté. Je n'avais pas prononcé une parole. On me jeta comme un paquet dans le bureau d'Eliassin, où on me laissa coucher sur le carreau. Le tumulte était à son comble. Chacun se vantait bruyamment de la part qu'il avait prise à la victoire. Et la servante répétait avec triomphe « Un peu plus, je l'embrochais comme un carré de veau !» L'arrivée de M. Schwartz mit fin à l'orgie. Il revenait du cirque Franconi à son heure ordinaire. L'hymne des vainqueurs l'effraya comme une émeute. Il renvoya la foule, gronda sa femme et me fit enlever les trois quarts de mes liens. Avec le quart restant, on aurait garrotté trois hommes dangereux. Eliassin fut chargé de rédiger un rapport constatant que j'avais été